Alignée, le podcast des entrepreneuses créatives en quête de sens. Je m'appelle Dorothée Cadio, je suis directrice artistique pour les entreprises à impact positif. Dans Alignée, je pars à la rencontre de femmes qui ont décidé de remettre du sens dans leur métier créatif. Elles sont graphistes, directrices artistiques, designers web, illustratrices ou spécialistes en identité de marque, et elles ont décidé de se façonner une activité à leur image, pour être entièrement alignées avec leurs valeurs. Ce podcast a pour but d'aider les entrepreneuses créatives à remettre du sens dans leur activité et attirer leur client idéal. J'espère que vous repartirez inspirés et motivés par le parcours de mes invités et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Lucie.
Bonjour Dorothée.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Avec plaisir.
Je suis ravie de t'accueillir pour que tu nous parles de ton parcours et des coulisses de Mew Studio. Lucie, tu es graphiste et coloriste. Tu as créé un univers fleuri et poétique et tu t'es donné comme mission de mettre en lumière et en couleur des projets engagés et positifs. Tu es aussi la créatrice du podcast Colorful, que j'adore. Grâce à toi et grâce à ce podcast, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de la couleur dans ma vie et puis de la place qu'elle avait aussi dans ma pratique. Donc, merci. C'est vrai qu'avec ce podcast, tu nous emmènes dans une exploration du monde de la couleur qui est absolument passionnante et que moi, personnellement, je n'avais jamais entendu ailleurs. Donc, je suis hyper contente que tu sois là et je vais te laisser te présenter avec tes mots. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais et ce qui t'anime ?
Bah, déjà, merci pour tes mots. Je suis ravie que, je suis ravie d'avoir permis de te mettre un peu de couleur dans ta vie, indirectement, par le biais du podcast. La couleur, ça me tient beaucoup à cœur et du coup, ça fait vraiment partie de mon métier, de ma vie au quotidien. Donc, je suis designer graphique et coloriste. Bon, en d'autres termes, on va dire un peu plus connu peut-être, graphiste et donc spécialiste couleur. Coloriste, on a toujours un petit peu de mal à voir ce que c'est comme métier. Généralement, les gens se disent « Ah, c'est peut-être coloriste pour les cheveux ». Non, je ne travaille pas chez Franck Provost. Mais du coup, voilà, donc j'ai cette double casquette, en fait, le graphisme et la couleur. Et donc, j'ai créé mon studio, donc comme tu l'as dit, Mew Studio, en 2019. Et donc, depuis 4 ans maintenant, j'accompagne les entreprises créatives et joyeuses qui vont faire du beau et du bien autour de nous. Plus précisément, du coup, je crée des identités visuelles, je crée également des motifs et des illustrations. Et pour la partie couleur, vraiment, je développe des palettes de couleurs et j'accompagne les professionnels sur vraiment la couleur dans leur communication et leurs produits. Pour la partie studio. Pour la partie autre, puisque j'ai encore d'autres casquettes, du coup, comme tu as pu le dire, j'ai créé mon podcast, donc Colorful, ça fait maintenant 1 an. Et du coup, je pars à la rencontre des professionnels qui travaillent la couleur au quotidien. Donc, on va avoir différents corps de métiers, tous les métiers, en fait, dans lesquels on peut retrouver vraiment la couleur. Ça peut être plus de l'artisanat, plus une partie scientifique, une partie industrielle, etc. Donc, j'essaie de un petit peu toucher plein de secteurs différents. Et pour la dernière partie, je donne également des cours d'art appliqué dans une école d'esthétique, du coup, depuis 3 ans, des cours d'art appliqué et de communication visuelle. Voilà.
Eh ben, ça en fait des choses.
Oui, ça en fait des choses, effectivement.
Et en plus de ça, tu as une boutique aussi sur ton site où tu vends tes illustrations. Tu as oublié cette partie-là ?
J'ai oublié cette partie-là. Alors, c'est une partie qui voit évoluer aussi, parce que là, on en parlera après, mais voilà, depuis presque 4 ans, il y a quand même eu pas mal d'évolutions aussi, bah, notamment l'arrivée du podcast. On va dire ma spécialisation, du moins l'affirmation de ma spécialisation autour de la couleur. Parce que j'en parlerai après, mais j'ai fait des études, justement, un master autour de la couleur. Donc, j'ai vraiment appris les fondements de la couleur. Et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui va faire, on va dire ma valeur ajoutée, ce qui m'anime au quotidien, en plus de, du coup, bah, des rencontres, de la transmission, du coup, en donnant des cours, et puis bah, de plein d'autres choses, quoi.
Ok. Bon, bah, du coup, on va repartir un petit peu en arrière, comme tu dis. On va essayer de comprendre comment t'en es venue justement à affirmer ce positionnement sur la couleur. Et peut-être tu peux nous raconter un peu les études que t'as fait et puis ouais. Par quoi tu es passée avant d'en arriver là, justement.
Alors, beaucoup de choses à dire.
Choisis ce qui te semble important.
Alors, on va essayer de faire, de sélectionner. Non, en vrai, ça fait depuis que je suis toute petite. J'en parle d'ailleurs un petit peu dans l'intro de mon podcast, justement pour raconter un petit peu la genèse. C'est un peu les seules choses que je raconte par rapport du coup à mon parcours, mais du fait que je savais depuis très très longtemps en fait que je suis passionnée par tout ce qui est artistique, créatif et qui est lié à la couleur depuis toute petite. Et donc en fait, j'ai voulu après le collège vraiment m'orienter directement dans le milieu de la création en fait, c'est le design notamment. Et donc j'ai fait un bac art appliqué. Donc aujourd'hui, je crois que ça s'appelle STD2A. Voilà, c'est peut-être que certains auditeurs et auditrices du coup auront fait cette filière aussi là, mais c'est vraiment donc une formation. C'est pas comme S, L ou ES. On a vraiment enfin l'art appliqué qui prend une grosse partie. Dans nos plannings en fait d'étudiants, et donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Après du coup ce diplôme là j'hésitais en fait entre le milieu de la mode et le graphisme, parce que vraiment au début je me destinais à être styliste quand je suis sortie du collège et que je suis allée du coup en art appliqué. Et en fait je suis allée du coup dans une école, enfin j'ai été acceptée en BTS design de mode et textile. Donc là, j'ai vraiment appris les fondements en fait du secteur du textile. Donc comment créer une collection, comment dessiner des vêtements, vraiment la partie stylisme, mais aussi la partie graphisme avec du coup comment dessiner des motifs, quelle était la différence entre tel et tel type de motif, aussi la technologie du textile. En fait, c'était hyper varié. Enfin, c'était à 360 pour avoir une expertise vraiment dans le textile. Et se destiner soit à être designer textile, soit styliste, en partie. Sauf que du coup, donc à la fin de ces études-là, j'ai voulu postuler en fait. Enfin, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai postulé dans des écoles de mode publique, parce que je me destinais toujours à vouloir travailler dans la mode. J'avais fait des stages et tout pendant mon BTS, qui s'était très bien passé, et enfin voilà, j'étais à fond là-dedans, sauf que du coup, en France, les écoles publiques, elles sont très, très peu nombreuses. Il y en a 6, avec 15 places par formation. Donc, du coup, on fait le calcul rapidement. Il y a moins de 100 personnes qui peuvent accéder à ça, sachant que des BTS en France, il y en a quand même énormément, des BTS de mode. Donc, hyper compliqué. Donc j'étais sur liste d'attente et en parallèle j'avais postulé à d'autres écoles, et j'avais postulé notamment à l'Institut supérieur de la couleur et du design, donc à Montauban, près de chez mes parents, parce que je suis originaire du sud-ouest. Et du coup je me suis dit bon bah allez, on va voir, peut-être que je serai prise à cette école là c'était un petit peu dans les dernières écoles qui restaient, et j'ai été prise dans cette école là Et du coup, j'étais prise en licence en design. Et ça me plaisait, mais j'étais pas encore à fond dans le truc. Et donc, il y a certaines de mes professeurs qui m'ont dit « Bon, Lucie, il y a une formation en couleur juste après la licence. » Parce que moi, je voulais arrêter après la licence. Je me suis dit « Stop, c'est bon, on est marre. » Et au final, elles m'ont un petit peu vendu le truc. Je suis allée voir ce que faisaient les étudiantes en couleur. Et là, j'ai eu une énorme révélation. En fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est exactement ça que je veux faire. En fait, la couleur, c'est vraiment ce qui relie tout ce que j'aime, à la fois la partie motif, la partie identité de marque, la partie aussi transmission, accompagnement. Enfin, et puis la couleur, elle est partout autour de nous, en fait. Donc, enfin, vu que je suis hyper sensible vraiment à ce qui m'entoure en fait de manière générale, je me suis dit c'est vraiment ça qu'il faut. Et donc j'ai retrouvé la flamme on va dire, Et du coup, bah voilà, pendant les 2 ans en master couleur, j'ai vraiment pu expérimenter la couleur sur tous les supports différents. Donc moi, par la suite, je me suis vraiment spécialisée sur la partie graphisme, communication et textile, qui étaient vraiment de base mes deux, on va dire, spécialités. Mais j'ai pu aussi expérimenter la céramique, le design culinaire, plein d'autres choses. Et comme je le disais précédemment aussi, j'ai aussi appris la science et l'histoire de la couleur, comment créer des gammes couleurs, le lien de la couleur et des tendances, l'aspect sociétal. Enfin voilà, y a plein de choses, et vraiment hyper 360 comme formation, donc vraiment génial.
Ça devait être passionnant, mais il y a peu, excuse-moi je te coupe, mais il y a peu de formations comme ça, non, en France? C'est la seule?
Alors il y en a deux, enfin à ma connaissance maintenant, je sais qu'il y a eu, il y a certaines spécifications pendant des parcours des fois, notamment aux arts déco. Alors Paris, je sais pas trop, mais je sais qu'à Strasbourg, il y a quand même une formation sur la couleur. Donc en fait, entre celle de Strasbourg et Montauban, à ma connaissance, il y en a que deux. Et après, c'est aussi des choses qu'on peut apprendre en complément, justement, pendant des études en design. En fait, ça arrive d'avoir justement des parties sur la couleur, notamment en design graphique, et aussi en design produit, notamment par rapport aux matières, aux supports et tout. Mais
ouais, mais on n'a jamais été aussi loin.
Ouais, c'est ça, en fait. Là, vraiment, c'est vraiment hyper, hyper vaste, et en même temps aussi hyper, hyper précis, parce que les professeurs que j'ai eus, du coup, ce sont des professionnels qui sont eux-mêmes experts de la couleur, qui travaillent pour différents secteurs. J'ai eu des professeurs qui travaillaient dans le secteur des tendances, d'autres dans l'éclairage, d'autres dans la teinture végétale. Enfin, vraiment, c'est hyper complet, en fait, au final, comme approche. Okay.
Génial. Donc là, c'était la passion pendant ces 2 ans d'études, et la grosse révélation, tu étais à ta place, quoi.
Ouais, exactement. Et puis, ça a aussi été à ce moment-là où je me suis aussi découvert une appétence, on va dire une passion pour l'enseignement, parce que pendant, du coup, ma première année de master, j'ai aussi enseigné en parallèle. C'était un programme qui a été fait par l'Éducation nationale, je ne sais pas si ça se fait encore, qui s'appelle Emploi d'avenir professeur, bref. Et du coup, on pouvait en parallèle, du coup, enseigner dans une école avec notre spécificité. Donc, la mienne, c'était l'art appliqué. Et donc, j'ai enseigné en lycée pro, l'art appliqué. Donc,
c'était super jeune.
J'avais quel âge? 22 ans, je sais plus.
Waouh!
Donc là aussi, c'était un gros challenge. Alors, j'étais pas toute seule, j'étais accompagnée d'une tutrice, donc la professeure de la classe et donc du lycée où j'étais. Mais certaines séquences, ça m'arrivait d'animer le cours toute seule, etc. Et du coup, c'était vraiment super. Et ça m'a aussi permis ensuite d'enseigner dans ma propre école. Donc, quand j'étais en seconde année de master, j'ai pu enseigner des cours de couleurs et tendances aux licences. Donc, c'était assez drôle aussi, et assez intéressant d'ailleurs, de faire ça, en fait, d'avoir cette casquette-là, mais dans ma propre école.
Donc, ouais, c'est ouf. Et puis, juste après l'avoir fait, tu vois, tu reviens pas 15 ans plus tard, quoi. Direct, t'enseignes. Ouais.
Exactement. Donc, c'était super.
Et alors après, du coup, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu as été freelance tout de suite? Tu t'es mise à ton compte?
Non, du coup, j'ai eu la chance de faire des stages, pas mal de stages pendant mon master, notamment des stages dans des cabinets de tendance et pour des marques de prêt-à-porter. Et en fait, à la fin de mon stage de fin d'études, donc juste avant de faire ma soutenance de mémoire, parce que j'ai aussi rédigé 2 mémoires pendant mes études, c'est anecdotique, mais ça a pris quand même beaucoup de temps. Donc, du coup, à la fin de mon master, en fait, on m'a recontacté, en fait, pour revenir là où j'avais passé mon stage de fin d'études, donc dans un groupe textile, et j'ai travaillé pour une des marques du groupe pendant 1 an et demi. Donc j'étais graphiste textile là-bas, donc je m'occupais de faire les motifs sur les vêtements, aussi une partie support de communication sur du coup par exemple les étiquettes, etc. Enfin tout ce qui était autour du produit. Et après, ben mon contrat s'est terminé, donc je suis partie. Et j'ai été recontactée par une autre marque de textile, en fait. Et donc là, j'ai travaillé pendant 2 ans là-bas. Et en fait, l'envie d'être freelance était déjà sous-jacente juste à la fin du BTS, en fait. Donc juste avant de faire ma licence, je me suis dit, bon, bah, j'ai envie de me mettre à mon compte et tout. Mais bon, j'avais même pas 20 ans, donc... Enfin, si, j'avais 20 ans d'ailleurs, 21 ans, je crois. Mais je me suis dit, c'est un peu jeune peut-être. Enfin, je me projetais pas du tout à cet instant-là dans la gestion d'une entreprise, en fait, telle que je le connais aujourd'hui. Enfin, tu le sais, il y a plein de choses à gérer au-delà de notre propre métier. Et je me sentais pas assez armée par rapport à ça. Et du coup, le fait d'avoir travaillé en entreprise avant, ça m'a permis aussi de voir les différents processus, d'être confrontée aux différents corps de métier. D'échanger aussi avec l'étranger à certains moments, parce que dans le textile on travaille beaucoup avec l'étranger, notamment les fournisseurs, donc il y avait pas mal de choses qui m'ont permis ensuite de me dire à la fin au final de ces presque 5 années en entreprise, de me dire bon allez go, je me sens prête. Et donc du coup voilà, j'ai lancé en fin 2019, début 2020 du coup le studio, en fait, voilà.
T'as fait comment pour passer de l'un à l'autre? T'as eu une petite transition ou t'as démissionné ou ton contrat s'est terminé puis t'es dit allez j'y vais, quoi?
Non, alors du coup il y a eu on a mis fin au contrat, en fait, tout simplement. Et du coup c'était, je pense, cette période-là il y a eu pas mal de vagues. C'était juste avant le Covid, en fait, il y a eu pas mal de vagues de départ, j'ai l'impression, un peu partout, hein, mais du coup, c'était pas forcément calculé, sauf que ce qui était encore moins calculé, c'est que j'allais lancer mon entreprise en déménageant dans une nouvelle ville où je ne connaissais personne. Sauf mon compagnon et une amie. Mais du coup, niveau professionnel, en fait, j'arrivais vraiment dans une nouvelle ville. Donc, je me suis dit, oulala, comment je vais faire? En plein Covid, on peut pas rencontrer les gens. Donc,
ouais. Pour toi, c'était très lié au fait de pouvoir rencontrer les gens en personne, en fait.
J'avais envie, j'aime beaucoup cette partie contact, en fait, pouvoir rencontrer les gens. Là, aujourd'hui, je travaille avec quelques commerçants sur La Rochelle, des entreprises qui sont locales, et c'est vrai que ça me plaît aussi de pouvoir échanger, faire des rendez-vous avec les gens. Alors, je travaille aussi avec des personnes qui sont sur Paris, Bordeaux ou en Bretagne, par exemple. C'est différent, c'est des échanges à travers l'écran et il y a aussi un lien qui se crée. Mais c'est vrai que je me suis dit, j'aimerais bien aussi rencontrer les acteurs, actrices locaux, qui sont entrepreneurs et entrepreneuses. Et ça n'a pas pu se faire directement, ça s'est fait après. Mais voilà, du coup, ça a été beaucoup du digital au début du lancement, du coup.
Et quand tu t'es lancée, alors, juste avant le Covid, en arrivant dans une nouvelle ville, tu fais pas mal de challenges en même temps, et t'as tout de suite créé Mew Studio dans l'idée de faire à la fois du graphisme, du motif, ou au début, comment tu t'es présentée, en fait, au tout début?
Très bonne question. Comment je me suis présentée? Alors, pour la petite histoire, encore une fois, j'ai eu pas mal de cordes à mon arc. C'est qu'en fait, avant de créer Mew Studio, j'avais déjà un compte Instagram et une boutique Etsy, en fait, où je crée du bijou, en fait. À la base, en parallèle, du coup, de mes emplois salariés, je crée des bijoux, et donc j'étais vraiment sur, alors c'était du bijou fantasy, mais pas sur de la haute joaillerie, c'est pas du tout dans mes compétences et tout, mais j'avais un travail quand même où j'essayais de créer des collections hyper hyper harmonieuses, je faisais appel à des photographes, enfin tout ça, j'étais sur quelque chose quand même que je voulais assez abouti, en fait. Et en fait, justement, quand je me suis posé la question de me lancer à mon compte, je me suis dit, est-ce que je garde cette partie-là, en fait, du bijou, ou est-ce que je me lance carrément sur la partie graphisme, motif, couleur, etc. Et en fait, voilà, il faut de l'argent pour manger, pour vivre. Donc,
Ah bon, oui,
c'est vrai. J'aimerais bien pouvoir vivre de fleurs et d'eau fraîche, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, du coup, bah, je me suis dit, OK, je vais faire ce choix-là, en fait, de partir sur, au final, plus mon expertise, en fait, parce que la création de bijoux, c'était, j'avais des compétences, mais c'était peut-être plus un loisir entre guillemets. Je me considérais pas comme une créatrice experte de son domaine dans le bijou, vu que je faisais ça. C'était vraiment un side project du coup quand j'étais graphiste textile pour des entreprises. Et du coup, c'est vrai que bon, j'ai fait ce choix-là que je regrette pas du tout aujourd'hui parce que vraiment, je m'éclate dans mon métier. Mais du coup, aujourd'hui, ça m'arrive d'accompagner justement des artisanes, des créatrices qui font du produit et qui sont aussi passionnées. Donc, c'est marrant, j'ai un peu changé de côté, du coup. Mais ouais, avant, j'avais donc ça. Et en fait, j'ai fait ce choix-là en 2020 de plus axer ma communication, en tout cas sur les réseaux sociaux, petit à petit pour faire une transition sur... vraiment le graphisme, parce que je proposais aussi l'illustration en parallèle. Enfin, c'était vraiment un compte créatif. J'avais plein de choses, le bijou, l'illustration. Mais du coup, voilà, je me suis dit, là, maintenant, on va faire les choses carrées, professionnelles. Voilà, graphisme, couleur, motif. C'est parti.
Et alors, du coup, tu bénéficiais un peu d'une audience qui te connaissait déjà sur Instagram grâce à ce compte-là où tu partageais ton travail sur les bijoux. Donc, ça t'a permis aussi d'avoir des gens qui ont parlé de toi, qui te connaissaient déjà, c'est ça?
C'est ça, en fait. Et au final, il y a eu cette partie-là. J'ai fait l'annonce en disant que c'était ça allait prendre une toute autre tournure. On allait rester dans le milieu de la création. Mais du coup, voilà, que je me lançais à mon compte avec mon métier et voilà... toutes les études que j'avais faites dans cette direction-là pour travailler dans le graphisme et la couleur. Et justement, les personnes effectivement qui me suivaient, qui suivaient tout ce que je faisais avant, ont continué à me suivre. Et après, j'ai aussi communiqué dans ce sens-là. Donc, il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Et ça a été aussi un gros challenge de me dire, là, entre guillemets, j'ai pas le choix. Il faut que je mette toutes... les chances de mon côté pour que ça fonctionne. Donc, je me suis pas mal investie sur les réseaux sociaux. J'ai parlé de ce que je faisais, montré ce que je faisais. Et puis voilà.
Et ça a très vite porté ses fruits ou ça a mis du temps à démarrer?
Ça a été, je dirais, pendant le Covid, crescendo en fait. Enfin, petit à petit, je postais, alors pas tous les jours, mais quand même assez fréquemment. Je montrais les coulisses, ce que je faisais, etc. Et puis, j'ai vu que ça prenait. Et pour que ça fonctionne vraiment bien, je pense qu'il a fallu un an et demi. Alors, ça peut paraître court, c'est vrai, parce que du coup, je sais que pour certaines, ça met plus de temps à fonctionner. Mais je pense qu'en fait, j'y suis tellement allée à fond dès le début. Ce qui, on en parlera après. À un moment donné aussi, je me suis dit, t'as été trop à fond. Donc, du coup, voilà, il n'y a pas forcément que des côtés positifs à ça aussi, mais du coup, j'avoue que ça a quand même bien fonctionné dès le départ.
Et est-ce que t'as tout de suite aussi cerné que tu voulais travailler sur des projets, comme tu le dis sur ton site web, engagés, positifs? Enfin, est-ce que t'as aussi réussi à assumer tout de suite ce positionnement où on voit dans ton univers que tu parles beaucoup de bienveillance, de couleur, de joie, de aussi... tu dis que t'es écoféministe, enfin c'est beaucoup de choses en fait, c'est vraiment assumer des choses. Je sais qu'il y a beaucoup de freelances qui ont du mal en fait à passer ce cap-là, donc est-ce que tu l'as fait tout de suite ou est-ce que ça a mis du temps aussi? Est-ce que t'as tout de suite attiré des clients comme ça ou pas?
Alors, vraiment, je pense que ça s'est fait crescendo. Pareil pour la partie assumer vraiment ses valeurs et tout. Ce pourquoi j'étais partie des entreprises où j'étais, c'était aussi justement pour travailler à plus petite échelle, faire des collaborations où j'ai pas 3000 interlocuteurs en fait déjà, et puis vraiment être avec l'humain en fait, au cœur de l'humain. Le côté social, il est vachement important pour moi aussi dans les échanges et aussi dans l'ADN des marques et des entreprises avec lesquelles je travaille. C'est clair que l'engagement, il est hyper important pour moi. j'ai l'impression que même des fois j'en parle pas assez, donc ça me fait hyper plaisir que tu m'en parles et tout, parce que même pour le côté féminisme, etc., c'est vraiment une grosse partie de ma vie, justement quelque chose que j'ai encore envie de plus, enfin d'encore plus affirmer. Mais du coup, forcément, des fois aussi, c'est faire des choix, en fait, comme tu dis, voilà, se fermer des fois des portes. Mais en fait, c'est aussi ça. ça fait partie de la vie, quoi, et des choix qu'on peut faire. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper important pour moi. Au début, forcément, quand il y a des contrats qui se présentent, je faisais pas la difficile, en fait, juste, c'était des super projets, je me suis dit, ok, go, j'accepte, c'est génial, ça va me permettre, justement, de découvrir tel et tel univers. Or, il n'y a jamais eu dans tous les projets que j'ai pu accepter, il n'y a jamais eu de projet qui n'était pas en phase avec, c'est-à-dire, au moins une ou deux de mes valeurs. Donc, je me suis pas vendue en disant non, je vais travailler pour un énorme truc qui me correspond pas du tout. Mais je dirais que justement, avec le temps, c'est de plus en plus affiné, justement. Et je pense que c'est aussi la communication, peut-être ce que je renvoie, qui fait que certaines personnes viennent à moi et parce que ça leur plaît, en fait. Parce que voilà, cet univers autour de la couleur, qui peut paraître naïf des fois, parce que ça aussi, pour en parler, mais. Afficher des couleurs partout, on se dit oh là là, c'est un peu enfantin, c'est pas très professionnel, tout ça.
C'est des retours que t'as eu ?
Alors c'est pas des retours que j'ai eu, mais que j'avais avant, en fait, qui quand j'étais plutôt en entreprise, ce côté naïf pouvait peut-être moins plaire, en fait. Et du coup, c'est aussi ce qui m'a un petit peu, je pense, fait attendre, en fait, avant de me lancer. Et j'étais pas hyper, j'avais pas forcément trop confiance en moi par rapport à ça. Mais ouais, la couleur, c'est un gros sujet aussi pour les entreprises, en fait. Comment l'utiliser sans que ça fasse arc-en-ciel, sans que ça fasse trop carnaval, etc. Il y a aussi des fois une certaine, je dirais, c'est pas peur, mais on sait pas trop par où commencer. Donc, je pense que le fait de voir que moi, j'en mets partout, disent, bon, peut-être qu'elle sait ce qu'elle dit, elle sait ce qu'elle fait, on va voir, on va la contacter.
Si, c'est vraiment un sujet. Moi, je trouve, en tout cas, avec mes clientes, c'est un des points vraiment les plus importants dans l'identité visuelle. Et parfois, elles arrivent vers moi en me disant, j'arrive pas à trouver mes couleurs. C'est vraiment un des points d'accroche, je trouve, que j'entends souvent chez mes clientes.
C'est exactement pareil. Et pour le coup, c'est souvent pour ça, en fait, à la base, qu'elles viennent me voir. Et après, du coup, bien sûr, pour la partie identité visuelle, on me dit, bon, je voudrais une identité visuelle colorée. J'aime beaucoup de couleurs, mais en fait, je ne sais pas si c'est en phase avec ma cible, avec mes produits, avec... l'univers que j'ai envie de créer autour, je suis perdue, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et du coup, c'est là où j'interviens, je dis, tout va bien se passer. Vraiment, on va y arriver et tout. Mais du coup, c'est vrai que, après, je pense aussi que c'est sociétal, pour parler d'un truc qui est peut-être plus vaste, mais la couleur fait peur aussi. Enfin, en France, on n'a pas vraiment une culture de la couleur, ou on peut le voir déjà quand les gens s'habillent, en fait. C'est rare qu'on voit plein d'arc-en-ciel dans la rue. Les bâtiments sont pas hyper colorés, donc je pense que ça fait aussi partie d'un truc dans lequel on baigne aussi de manière générale. Et donc la couleur peut faire aussi un peu peur des fois, ou en tout cas on sait pas trop comment par où commencer.
Oui, ou comme tu dis, ça peut faire un peu naïf ou,
c'est ça, en fait,
ou
trop
coloré, ce qui est... Mais du coup, toi, tu as décidé vraiment de l'assumer à fond et ça a fait venir quand même des gens à toi, du coup.
Ouais. Totalement, totalement. Et aussi, justement, c'est de rassurant en disant, voilà, comme je disais, c'est pas parce que moi, j'ai cet univers-là qu'ensemble, on va faire pareil, en fait. Enfin, le but, c'est pas, justement, c'est chaque personne et chaque entreprise est différente. Et justement, c'est d'injecter de la couleur pour que votre communication, elle se démarque, que vos produits, on les voit, qu'on embarque les gens dans votre histoire aussi. Ça, c'est quelque chose que j'adore aussi. Créer des histoires autour de la couleur et tout, c'est trop intéressant.
Et du coup, si je creuse un peu en termes de ta stratégie de communication aujourd'hui, est-ce que tu sais dire bah, justement comment tu attires tes clients? Enfin, qu'est-ce que tu mets en place en fait pour vivre de ça?
Alors, du coup, je t'en parlais juste avant, ça a été en premier lieu les réseaux sociaux. Donc, vraiment communiquer dessus, notamment Instagram. Voilà.
T'es sur d'autres réseaux?
Alors, y a LinkedIn. Donc là, LinkedIn, je l'axe plus sur la partie podcast au final, parce que c'est aussi comme ça que le podcast se fait connaître. Il va y avoir d'autres évolutions dans un futur plus ou moins proche. J'en dis pas plus, mais du coup, ouais, pour l'instant, c'est les deux réseaux sociaux sur lesquels je suis. Et ensuite, il y a effectivement le podcast avec les plateformes d'écoute où on peut me découvrir d'une autre façon. C'est plus via Couleurful qu'on découvre mon travail. Et puis après, j'ai mon site web, bien évidemment, du coup, qui est en place depuis 2 ans maintenant. Donc voilà, en fait, ça dépend. En fait, les gens... il y a aussi la partie rencontre, en fait, locale. Donc, c'est un peu 33-33-33, si je devais faire une division, on va dire, en termes de pourcentage. J'ai des personnes qui viennent, une partie qui vient des réseaux sociaux, une partie via le site web, et une partie, ça va être en local, en fait, le bouche à oreille, ou justement des clientes avec lesquelles j'ai travaillé, qui me disent « Ah, mais je t'ai recommandé à telle personne », ou « Ah, tiens, tel commerçant, il a besoin de ça, peut-être que tu pourrais voir avec lui », etc. En fait, ça dépend, c'est vraiment assez varié quand même.
Ouais. Et tu as réussi à t'intégrer justement au niveau local, comme tu le disais, comme tu le souhaitais quand même.
Alors du coup, j'aimerais que ce soit encore plus le cas, mais pour le coup, je pense que justement, ça a fait son chemin. Au final aussi, il y a eu le Covid, on a été pendant jusqu'à presque 1 an et demi où c'était un petit peu... flottant, on va dire. Donc, les commerces ouvrent, ferment, etc. Enfin, donc, il y a pas mal de changements par rapport à ça aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des commerces, des entreprises avec lesquelles, au final, ça fait peut-être presque 2 ans avec qui je travaille, en fait, de manière ponctuelle. Mais voilà, ça permet de garder ce lien-là aussi, quoi.
Ouais, c'est intéressant parce que finalement, j'ai l'impression... aussi peut-être à cause du Covid, mais qu'il y a beaucoup de freelances ou d'indépendantes qui ont basé toute leur com sur les réseaux sociaux, enfin en tout cas qui croient qu'il faut faire ça, et qui ont un peu oublié qu'il y avait tout ce pan-là. Donc je trouve ça chouette que t'en parles et que tu dises que toi aussi c'était vraiment une volonté dans ton activité d'être dans les relations en vrai avec les gens et de t'ancrer dans ton territoire, quoi.
Ouais, hyper important pour moi parce que du coup, j'adore les gens. C'est un peu naïf dit comme ça, mais voilà, j'adore l'humain. Je trouve que c'est tellement, les échanges peuvent être tellement riches. Rien que quand les gens me parlent de leur projet, on a l'impression que c'est leur bébé. C'est tellement, et le fait qu'ils puissent me le confier, je trouve ça trop, trop chouette. Enfin, vraiment, c'est vraiment un gage de confiance. Et puis ensuite, moi, m'immerger dans ces projets-là, ça me passionne, quoi. Créer un univers tout autour. C'est trop, j'adore.
Ouais, mais c'est vrai aussi que le fait d'aller physiquement dans, par exemple, une boutique, toi qui es aussi très, très, très sensible à la couleur et aux objets qui t'entourent, j'imagine que c'est important, du coup, pour ton inspiration, d'aller dans les lieux et d'être entouré physiquement par les choses sur lesquelles tu vas travailler, quoi.
Totalement, ouais.
Est-ce que tu travailles avec quelqu'un? Est-ce que tu délègues une partie de tes tâches? Comment ça fonctionne?
Comment ça fonctionne? Les secrets. J'aurais pu faire un jingle. Les secrets du studio. Je ne travaille avec personne, si ce n'est mon chat, mais qui ne fait pas grand-chose. Donc, c'est un soutien moral. C'est déjà pas mal. Non, en vrai, je suis toute seule j'ai pas d'employé, pas de stagiaire, etc. Je délègue une chose en particulier. Ça va être le montage et le mixage, du coup, de mon podcast, en fait, des épisodes. Parce que pour le coup, je suis pas ingénieuse son, donc je ne sais pas faire ça. Donc, j'avais aussi envie de garder, en tout cas pour Couleurful, pour ce projet-là, vraiment la partie plus qui me fait kiffer, les interviews, la partie communication visuelle, etc. Et j'ai envie de m'entourer d'une experte par rapport à ça. Et donc, je travaille avec une monteuse et donc c'est trop chouette. Donc vraiment, c'est de super qualité ensuite les épisodes. Et ensuite, pour la partie plus studio, ce que je fais au quotidien, je t'en parlais juste avant, mais justement, j'étais un petit peu directement... dès que je me suis lancée sur les chapeaux de roue, pendant un an et demi, ça a été un petit peu la folie. Et en fait, à un moment donné, j'ai fait « Oh là, on va se calmer. Peut-être qu'il serait bon de faire appel à quelqu'un qui est spécialisé dans l'organisation, la structuration, etc. » Parce que au final, quand je suis sortie des études, on nous a très peu parlé de comment se mettre à son compte. J'avais suivi des petites formations par-ci, par-là, avec... la chambre des métiers de telle ou telle ville quand j'habitais à tel endroit, parce que j'avais déjà envie de me lancer là-dedans et de savoir un petit peu les rudiments. Mais sinon, au quotidien, factuellement, qu'est-ce qui se passe? Faire des devis, des factures, la communication, la prospection, gérer ses objectifs, tout ça. Et en fait, j'ai une amie qui était une cliente à la base, qui est devenue une amie, et qui m'a dit « Ah ben tiens, je connais telle personne, qui est aussi devenue une amie maintenant, qui se lance dans l'accompagnement justement pour les entrepreneuses, donc la structuration, la prise de hauteur sur son business, etc. Donc peut-être que ça pourrait t'intéresser. » Et j'ai contacté cette personne-là. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, en fait, c'est vraiment ce qu'il me faut. Donc, j'ai fait un accompagnement qui a duré plusieurs mois, dans lequel on a revu vraiment un petit peu toute ma manière de faire, tous mes process, etc. Ça m'a permis de mettre vraiment du clair dans tout ça, de structurer davantage. Et du coup, je me sens beaucoup mieux.
Ça a marché,
exactement. C'est vraiment très important. J'ai vraiment vu la différence en fait avant après. Et justement, comme je disais en fait, quand on a son compte, on fait son métier, mais on fait aussi d'autres métiers en fait.
Ouais.
Là, ce sont pas vraiment nos zones de génie. Enfin, je suis pas comptable, je ne suis pas gestionnaire. Commercial, c'est quand même des métiers ou en tout cas des parties parce que j'ai pas besoin d'être comptable pour gérer en tout cas ma structure au stade où elle en est aujourd'hui. Mais pareil pour la partie commerciale, comment ça se fait? Enfin, ça, la prospection, moi j'en ai fait justement quand j'étais en études et tout. Mais ça reste à ce stade-là. Donc du coup, ça m'a vraiment permis de tout structurer, d'avoir plus de clarté et aussi de sérénité au quotidien. Et c'est vraiment, ça n'a pas de prix.
Il y a eu un moment où toi, tu t'es senti que tu prenais même plus de plaisir, ou ça, comment t'as su aussi qu'il y avait besoin de faire le point sur tout ça?
Je pense que c'était le moment où je me suis dit, en fait, j'arrivais plus à trouver du temps pour créer pour moi, en fait. Et ça aussi, c'est un gros... je dis pas que c'est un tabou dans le milieu de la création. En tout cas, quand on est passionné et qu'on adore, par exemple, dessiner, faire de la peinture, enfin, travailler sur notre médium, et qu'on travaille aussi ce médium-là, par exemple, au quotidien. Je sais que, du coup, moi, je fais de l'illustration aussi pour les clients, mais j'en fais aussi pour moi, pour, comme tu disais, ma boutique. Et du coup, j'arrivais plus à trouver du temps juste pour dessiner pour moi sans que ça ait de but commercial derrière, en fait. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être parce qu'il y a un problème d'organisation. Et du coup, pour retrouver du temps, il fallait que je restructure tout ça. Et ça a été le cas au final. Maintenant, aujourd'hui, je sais que j'ai retrouvé ce temps-là. Tout est davantage structuré. Donc, il y a plus de limites, on va dire, entre les choses. Donc, ouais.
Ça veut dire aussi que tu dis non à certaines choses ou quand tu parles de limites?
Ça a été dur, ça aussi, de dire non. Parce que du coup, j'aimerais pouvoir accepter tous les projets de la Terre. Mais voilà. Il a fallu aussi, à un moment donné, ça a été ça aussi, la question de l'organisation, prendre peut-être moins de projets. Au début, je sais que j'en prenais beaucoup. Mais après, je me suis dit, si je veux tenir la cadence, je peux plus prendre autant de projets qu'avant, Et aussi, il faut que j'étale les choses dans le temps. Enfin voilà, c'était, ça rentrait dans les détails en particulier, mais toute la, l'organisation et la, la structuration, elle s'est fait par ses choix aussi, en fait.
Enfin, effectivement, c'est des détails techniques, mais en fait, c'est super important parce que c'est ça qui permet pour toi de ramener du sens à ce que tu fais, c'est-à-dire avoir du temps pour ta créativité déjà. Parce
exactement.
Que tu as mis le doigt sur le fait que c'était important pour toi.
Ouais, exactement.
Et que, en fait, ça n'a pas de sens pour toi d'être indépendante si c'est pour juste être tout le temps en train de courir, te sentir sous l'eau.
C'est ça aussi, je pense. Mais en fait, pareil, tu vois, c'est quand c'est un métier passion, on a l'impression que, en fait, c'est déjà génial parce qu'on fait ce qu'on aime. Mais il y a plein d'autres personnes qui ont des métiers passion et voilà, on peut être passionné, je sais pas, par les fleuristes, en fait, qui ça peut être un métier passion pour certaines personnes. Bah peut-être que en fait elles ont aussi envie de, je sais pas, de créer des compositions florales pour elles, de travailler autour de la fleur séchée, j'en sais rien, vraiment de développer quelque chose autour de ce qu'elles peuvent faire au quotidien, mais pour elles, et justement sans derrière qui est ce but de d'être rentable, de vendre, etc. Et ça, je pense que c'est un équilibre qui est pas facile à trouver, en fait, quand vraiment notre métier, c'est le prolongement de notre passion et donc de nous-mêmes. Donc,
ouais. Est-ce que tu veux nous raconter ton plus gros échec depuis que tu t'es lancée à ton compte?
Alors là, c'est une question. J'allais dire pas facile. Alors, je sais pas, je veux dire, ça fait un peu la meuf prétentieuse, mais pas du tout. Je sais pas s'il y a eu un échec, mais justement, je pense que ça a été un petit peu cette partie-là dont j'ai parlé. Ouais. Ce truc, en fait, que j'étais en mode Wonder Woman, en fait. Je demande pas d'aide, je peux tout faire toute seule, c'est la fête, c'est génial. Ben, en fait, ça a des limites. Ça a des limites qui font que, voilà, des limites de temps, parce que le temps, c'est... c'est ce qui régit nos vies, en fait. On peut pas en rajouter du temps. C'est comme ça. C'est la vie. Et donc, du coup, je pense que ça a été, au final, au début, j'ai perçu ça comme un échec, mais plutôt un apprentissage. Enfin, je me suis dit, OK, bon, je demande de l'aide. Il y a un truc qui va pas. Il faut que je fasse en sorte que, voilà, que ça aille mieux. Et c'est jamais une situation confortable de se rendre compte de ça et ensuite de se dire, bon, on va se mettre un petit peu avec les mains dans la terre. Là, on va, voilà, voir ce qui va pas et tout. Donc, ouais, je pense que c'était un petit peu ça, ouais. D'échec, entre guillemets, mais qui n'en est pas un, parce que pour moi, c'est vrai aussi cette notion d'échec. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, c'est des choses qui n'ont pas... Enfin, on a détecté quelque chose qui n'allait pas. Et après, derrière, ben, on a rebondi ou on n'a pas rebondi, on a changé, enfin, on a changé de direction.
Ouais. En tous les cas, c'était de t'avouer qu'il y avait un truc qui coinçait, qui n'allait plus et qu'il fallait changer beaucoup de choses ou en tout cas regarder vraiment ce qui n'allait pas.
Exactement, ouais.
Et du coup, à l'inverse, qu'est-ce que c'est ta plus grande réussite ou ta plus grande fierté ?
Alors, déjà, le fait d'avoir pu faire de longues études, ça, c'était hyper important pour moi puisque j'adorais l'école, j'adorais mes études. Donc voilà, ça peut paraître un peu gnangnang, mais voilà, voilà, c'était génial vraiment. Et puis aussi, me lancer en plein Covid, comme je te disais, dans une nouvelle ville, je connais personne, c'est parti, faire une nouvelle activité, comment ça se passe et tout. Le fait d'avoir de zéro, en fait, créer ça toute seule. Et ensuite, je me suis fait accompagner par diverses personnes, mais vraiment, en fait, d'avoir vu le projet naître. Et c'est vrai que j'en parle souvent avec des amis. On se dit, mais on prend pas assez le temps de célébrer ces victoires, ces fiertés et tout. On est tellement dans le quotidien. Mais ouais, c'est trop cool, en fait.
Bien sûr.
C'est trop génial. Et puis aussi d'avoir lancé le podcast, en fait. C'était un projet qui était vraiment... qui vraiment baignait depuis longtemps dans son jus, en fait. Quand j'étais salariée, j'écoutais beaucoup de podcasts, parce que je fais aussi maintenant au quotidien en étant à mon compte, mais je me disais, ah, j'aimerais trop écouter un podcast sur la couleur, mais il n'y en a pas. Si j'en crée un, je vais pas faire ça tout de suite, mais du coup, pareil, j'ai suivi une formation pour apprendre à créer un podcast. Comment ça se passe. Quel est le matériel, les outils, les plateformes, enfin, toi-même, tu sais. Donc du coup, voilà, il y avait vraiment ça aussi, ça a été fou en fait de voir qu'il y a des gens qui m'ont fait confiance, qui ont accepté d'être interviewés sur le podcast. Ça m'a permis de rencontrer des personnes qui avaient une approche de la couleur vraiment géniale, de revoir des anciennes profs à moi, d'aller aussi bah du coup à l'étranger indirectement. Quand tu parlais du coup de fierté là récemment, ça a été d'avoir fait une collaboration du coup avec la marque de grande couleur Carandache. Ça c'était tellement dingue en fait, j'étais trop fière quoi.
Bah vas-y, tu veux nous en parler un peu, parce que peut-être que celles qui n'écoutent ne savent pas que tu as fait ça.
Alors bah du coup, c'est pour la petite histoire, pareil, j'essaie d'être hyper concise, mais c'est pas du tout mon fort, donc désolée. Je ne suis pas storytelleuse, j'adore parler, donc voilà. Du coup,
par pause, on va continuer un petit peu.
c'est ça. Prenez un thé. Non mais du coup je vais essayer d'être quand même succincte, mais via les réseaux sociaux, voilà, je partage mon travail autour de la couleur, et c'est par ce biais-là en fait que Carandache m'a contactée. Ils ont vu que je faisais voilà du contenu autour de la couleur, notamment les petites vidéos, les cool combos que je peux faire où je mets face à face des duos de couleurs. Et du coup, ils cherchaient quelqu'un en fait qui soit vraiment spécialisé dans ce domaine-là pour créer en fait une exposition autour de différents éléments. Donc là, en l'occurrence, j'ai créé des moodboards et du coup des illustrations autour de ces combinaisons colorées. Donc en fait, ça matchait parfaitement avec on va dire les différentes cordes à mon art, donc la partie design couleur et la partie motif illustration, univers de manière plus globale. Et donc voilà, c'était fin décembre qu'on a commencé la prise de contact. Et après, j'ai travaillé dessus en janvier, février, mars. Mais mars, j'étais vraiment à fond dessus parce que l'expo et donc l'installation était donc fin mars. Donc je suis partie en Suisse pendant une semaine. Du coup, j'ai pu visiter la manufacture où étaient fabriqués donc tous les produits. Donc là déjà, caverne d'Ali Baba, vraiment, on adore les crayons de couleur. Et puis la couleur de manière générale, voir les pigments, toutes les étapes, donc ça c'était vraiment génial. Et puis ensuite, installer l'exposition donc à Lausanne, là où était l'espace vraiment créatif de Carandache. Et ensuite, dans les gares aussi, il y avait des reproductions en fait et duplicats de l'expo dans les gares du coup de Berne et de Genève. Donc ça c'était trop fou. Et donc voilà, là je me suis dit, si la petite Lucie qui s'apprêtait à rentrer en art appliqué voyait ça, elle serait trop trop fière franchement. donc voilà, vraiment une super expérience.
Et ça s'est bien passé aussi pour toi, le processus créatif, le fait de gérer quand même un gros projet comme ça, je sais pas, la pression que ça peut mettre aussi.
Oui. Alors pareil, là je me suis dit pourquoi moi. Clairement, toc toc, syndrome de l'imposteur, bonjour.
Voilà, bonjour.
C'est ça, comment ça va? Ouais, pourquoi? Donc bon, là c'était un peu ça, je me suis dit oh là là. Mais pourquoi moi? Et puis après, effectivement, en échangeant avec les équipes, aussi, je me suis dit, c'est quand même une grosse entreprise. S'ils font appel à moi, c'est pas, ça sort pas du chapeau comme ça. C'est que je suis légitime aussi. Donc bon, bref. Et donc du coup, on a échangé pas mal par rapport à ça aussi. J'ai eu la chance d'être accompagnée par une équipe qui était vraiment super et qui vraiment, on se faisait des points hyper souvent sur le projet. Où est-ce que j'en étais au niveau de la partie création. J'ai pu du coup créer des illustrations à la main, des illustrations en digital, et ça c'était vraiment super d'avoir le choix sur les deux médiums en fait. Et puis après, pour la partie moodboard, c'était aussi hyper challengeant parce que le but c'était de partir sur des images libres de droit en fait. Donc en fait voilà, de bien sûr à chaque fois créditer tous les photographes et artistes qui avaient fait ça, mais donc j'avais des couleurs bien définies, donc pareil au niveau de la recherche, c'était assez dense et c'était hyper challengeant aussi en fait. Donc vraiment trop bien.
Est-ce que, pour terminer, tu voudrais donner un conseil aux auditrices et auditeurs, voilà, qui nous écoutent et qui se demandent justement comment on fait pour créer une activité vraiment à son image, en phase avec ses valeurs?
Alors, un conseil, ça va être compliqué. difficile de faire des choix, mais non, mais en vrai, ça serait vraiment de... Enfin, déjà... demander de l'aide si on a besoin, enfin vraiment se faire accompagner, en tout cas si on se lance, pour du coup bah avoir davantage de sérénité au quotidien si on en ressent le besoin, et puis bah faire les choses avec passion. Encore une fois, ça peut faire un peu gnangnan, mais en fait bah se dire qu'est-ce qui m'anime au quotidien, qu'est-ce qui fait aussi peut-être ma singularité, et en fait ça va aussi créer tout autour de soi je dirais, bah voilà, un univers, et ça se ressent en fait, je pense, dans la communication, quand on a des valeurs, des sujets de prédilection, des domaines de prédilection hyper forts, ça va se ressentir. Enfin, quand une personne est passionnée, de manière générale, ça se ressent dans sa façon de communiquer, et puis ça donne envie de rentrer dans son univers aussi. Donc voilà.
Voilà, très bon conseil. J'ai hier fait une interview où le conseil, c'était aussi de s'entourer, demander de l'aide. Donc, si vous n'avez pas compris...
Là, c'est pour vous.
C'est un signe.
Non, mais vraiment, je pense que... Enfin, c'est ça, ouais. On le dit, ça peut être être à son compte, être indépendante, ça peut être des fois synonyme d'être seule. Alors, ouais, ouais. Du coup, au final, je trouve pas forcément, parce que j'ai réussi à me faire, entre guillemets, des collègues, des amis qui sont aussi à leur compte, pas forcément dans le même domaine que moi. Mais on partage au quotidien nos problématiques, nos doutes, nos réussites, nos échecs parfois. Et puis, ça permet d'avoir du soutien et puis aussi se faire accompagner de manière plus globale par des gens qui sont spécialisés sur tel ou tel pan de notre activité, là où voilà, on ne sait pas trop par où commencer. Et du coup, ça peut être vraiment d'une grande aide pour, en tout cas, tenir dans la durée et construire quelque chose, on va dire, de solide, quoi.
Ok. Est-ce que, pour terminer, tu veux nous parler de quelque chose, d'une actu, une offre, quelque chose que tu fais en ce moment ou qui va arriver cette année ?
Les actus. Alors, là, je dirais que c'est un petit peu, en train de mijoter. J'ai créé Couleurful dans mon podcast il y a maintenant un peu plus d'un an. Et j'aimerais que ça grandisse. Alors voilà, j'en dis pas plus, mais j'aimerais créer quelque chose autour de la couleur. On est un peu en train de faire ça justement avec la fabuleuse personne qui m'accompagne. et du coup, on est vraiment en train de travailler sur ça. Et puis bah voilà, en ce moment, je travaille sur de super projets d'identité visuelle, des projets qui me tiennent beaucoup à cœur, qui sont aussi très engagés. Donc voilà, un petit peu pour les actus.
Trop bien, on a hâte de voir ce qui va sortir du coup de cette phase de, comment on dit, mijotage.
Ouais, mijotage. c'est ça en fait, c'est un peu ça, c'est aussi apprendre à prendre le temps. J'ai envie de faire sortir plein de trucs et tout, mais en fait, en parallèle, on sait aussi que justement, on travaille... On a la partie justement entreprise et la partie client. Et du coup, j'ai aussi envie de prendre du temps pour tout, en fait.
Si on veut suivre justement tes aventures, je peux conseiller plutôt aux gens d'aller sur Instagram ?
Ouais, sur Instagram. Sur mon site, il va y avoir prochainement des modifications normalement. Et puis, des épisodes de Couleurful aussi, si vous voulez en apprendre davantage sur la couleur. Il est dispo sur toutes les plateformes d'écoute.
Bon, écoute, merci beaucoup, Lucie, d'avoir partagé tout ça avec nous. Je te dis à bientôt.
Merci beaucoup, Dorothée. C'était un plaisir de parler de tout ça. Et puis, je te dis à bientôt aussi.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez aligner, vous pouvez soutenir le projet en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, mais aussi en parlant autour de vous et en venant discuter avec moi ou mes invités. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram @dorothecadio pour suivre les actualités du podcast, me poser vos questions ou me faire vos retours sur les épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt.